Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'avenir de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La question était au menu de la rencontre hier entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président congolais Félix Tshisekedi. La MONUSCO, 16 000 hommes, 1 milliard de dollars de budget annuel. Mais sur le terrain, vous le savez, la mission des Nations Unies est régulièrement critiquée pour son incapacité à protéger les civils face aux groupes armés qui opèrent dans le pays. Des ajustements sont donc nécessaires. D'ailleurs, vous l'avez certainement entendu ce matin sur notre antenne, Antonio Guterres, invité spécial de la rédaction, a promis davantage d'opérations conjointes entre l'armée congolaise et la mission de l'ONU. Alors, comment améliorer l'action de la MONUSCO? On en parle ensemble ce matin, dans 30 minutes pour être précis. D'ici là, vous continuez évidemment à nous rejoindre, 33 9 693 693 70. Des centaines de commentaires postés sur le compte WhatsApp de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec la contestation à Hong Kong. Cela fait 3 mois qu'elle dure, cette contestation. Bonjour David.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous.
Bienvenue sur notre antenne. Vous êtes à Brazzaville, on vous écoute.
Oui. Oui. Le militant pour la démocratie hongkongais, Joshua Hong, a été arrêté le 30 août puis libéré sous caution. Il a été un leader de la révolution des parapluies en 2014. Mais quel est son rôle dans les manifestations de ces derniers mois?
Oui, Joshua Wong, il n'a que 22 ans et il est incontestablement la bête noire du gouvernement pro-chinois de Hong Kong. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan.
Envoyé spécial de RFI à Hong Kong. David le rappelait à l'instant, Joshua Wong a été arrêté vendredi. C'est la 4e fois d'ailleurs qu'il est interpellé. Il a été libéré quelques heures plus tard sous caution. Concrètement, que lui reprochent les autorités?
Mais en tout cas, pas son rôle. En tout cas, il n'a pas eu de véritable rôle, comme le dit David. Pas de rôle direct, en tout cas, puisqu'il était en détention. Joshua Wong, lorsqu'a démarré le mouvement de protestation contre le projet de loi sur l'extradition, alors on lui reproche aujourd'hui des rassemblements qui ont eu lieu plus tard, mais on peut pas lui reprocher, en tout cas, le début de ce mouvement. Être en détention, cela ne veut pas dire, évidemment, disparaître totalement. Juan, ne plus pouvoir faire passer de message à l'extérieur, mais quand même, c'est plus compliqué. Joshua Wong est une figure charismatique, vous l'avez dit, qui conserve une grande aura chez les jeunes militants notamment. Donc c'est effectivement pour ça que le pouvoir chinois, le gouvernement central, le gouvernement hongkongais, évidemment, ne l'aime pas beaucoup. Il a d'ailleurs été libéré pour cela au départ, pour tenter de calmer l'opinion. Une première fois, c'était juste après près de 30%, je crois, 2 millions, 1 million le 9 juin, puis 2 millions le 16 juin dernier, on y était, de Hongkongais sont descendus dans la rue. Donc le gouvernement, à ce moment-là, l'a libéré. Il a suffi de voir à ce moment-là comment mesurer cette popularité. En tout cas, on a pu le voir quand il est sorti de détention, puisqu'on a vu Joshua Wong acclamé par cette jeunesse en t-shirt noir et masqué, donc qui anime ces manifestations depuis maintenant 3 mois, vous l'avez dit. C'est le Front uni des droits humains, Davy, donc un collectif d'associations qui, le 31 mars puis le 6 juin, a lancé ses marches, ses rassemblements contre un projet de loi sur les extraditions que les opposants à Hong Kong perçoivent comme une emprise renforcée de Pékin. Ils n'en veulent pas. Sur la région administrative spéciale, ils disent que ça ne respecte pas le modèle un pays deux systèmes. La figure de proue du mouvement des parapluies de 2014 n'a pas raccroché les clés, donc ensuite, quand elle est sortie de prison, elle est très active sur Twitter, par exemple. On voit beaucoup Joshua Wong dans les médias, et notamment dans les médias hongkongais, dans les médias étrangers, et donc effectivement, il est très 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 contesté par les pros establishment d'ici, par le gouvernement, des campagnes sur Twitter et puis également des campagnes auprès des médias étrangers.
Ouais, donc on ne peut pas dire que Joshua Wong occupe ces derniers mois le devant de la scène. Certes, il est contre les autorités pro-chinoises. Certes, il appelle régulièrement à la démission de Carrie Lam, la chef du gouvernement hongkongais. Mais en tant qu'organisateur, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Organisateur de la contestation à Hong Kong. Stéphane Lagarde, Joshua Wong, je le rappelle, il n'a que 22 ans. Il a déjà été condamné à des peines de prison, vous le disiez à l'instant. Que risque-t-il cette fois?
Alors, s'il est reconnu coupable d'avoir lancé le mouvement de contestation, ce qui n'est pas le cas encore une fois, mais enfin, si on lui trouve cette accusation-là, il risque la prison ferme. La dernière fois, en 2014, on se souvient, Joshua et ses camarades. Il avait 17 ans en 2014, avait bénéficié de l'indulgence des juges parce qu'il était très jeune et les juges avaient jugé, donc il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Il l'avait alors condamné à l'époque à une peine de 80 heures de travaux d'intérêt général. 5 ans après, évidemment, la donne a changé. S'il était condamné aujourd'hui, ça serait beaucoup plus dur. Et on voit que son parti, il n'est pas le seul concerné, hein, son organisation politique, en tout cas, le parti Demosisto, est souvent, les personnes sont souvent arrêtées, en tout cas intimidées. Encore hier, sur le compte Twitter de ce parti, de cette organisation politique, donc Demosisto, on apprenait que le vice-président de l'organisation avait été agressé, tabassé, par des individus alors qu'il rentrait chez lui. Donc des menaces judiciaires, mais aussi des menaces physiques, visiblement.
Allez, David, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui.
Bonne journée, alors. Bon, d'accord. Vous boudez, David. Je m'attendais un peu plus d'engouement, mais enfin, vous êtes tel que vous êtes et vous avez le droit d'être ainsi. Bonne journée à Brazzaville et merci de nous avoir appelés. Merci Stéphane Lagarde en direct de Hong Kong, 10h17 à Paris. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour Juan.
Correspondant de RFI à Bruxelles où se trouve le siège de la Commission européenne. On vous a contacté ce matin car nous avons justement des questions concernant la future Commission européenne et notamment le choix d'Emmanuel Macron, le choix de la candidate pour la France. Question qui nous est posée par Ismaïla. Soyez le bienvenu, Ismaïla.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina. On vous écoute.
Oui, oui. Ouais. Sylvie Goulard a été désignée comme candidate à la Commission européenne. Comment explique-t-on le choix du président Macron, alors qu'elle est impliquée dans une affaire d'emploi fictif financée par les fonds du Parlement européen?
C'est une bonne question que vous posez, Ismaïla. Pierre Benazet, le choix d'Emmanuel Macron suscite les critiques de l'opposition française. On rappelle tout de même qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, Sylvie Goulard avait été nommée ministre des Armées. Ismaïla le disait à l'instant, elle a dû très rapidement quitter le gouvernement suite à l'ouverture d'une enquête pour abus de confiance visant son ancien parti, le Modem, dans l'affaire d'emploi fictif d'assistant au Parlement européen. Comment peut-on donc expliquer le choix d'Emmanuel Macron, un choix voilà, qui surprend l'opposition en France?
Bah, si on prend les arguments rationnels qui pouvaient pousser Emmanuel Macron à choisir Sylvie Goulard, on sait d'abord qu'elle est politiquement compatible, puisque alors qu'elle était eurodéputée depuis 2009, elle a rejoint la campagne du mouvement En Marche parmi les premiers, donc dès 2016, avant l'élection, elle a été le soutien européen, et on dit même qu'elle a participé à la conception de l'ancrage européen d'Emmanuel Macron et sa vision pour l'Europe. Ça, c'est un premier aspect, son implication politique dans ce mouvement macroniste. Ensuite, il y a les aspects compétences, évidemment, puisque elle coche un petit peu toutes les cases, comme on dit aujourd'hui. D'une part, elle est extrêmement franco-allemande, ce qui est quelque chose de très important dans la vision européenne d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Elle a, dans sa carrière, été, par exemple, dans l'équipe française chargée de négocier la réunification de l'Allemagne, de 89 à 93. Elle a été assistante de Romano Prodi, le président de la Commission européenne, pendant 5 ans, pendant tout son mandat, de 2000 à 2004. Elle a été aussi, je le disais, député européen de 2009 à 2017, et à ce moment-là, elle était connue pour avoir énormément de contacts internationaux, beaucoup de contacts européens. On lui reprochait de pas être beaucoup dans sa circonscription, mais un peu partout en Europe. Elle a été celle qui a aussi, par exemple, ravi le mouvement européen aux socialistes Pierre Moscovici. Donc c'est quelqu'un de très impliqué dans la collaboration européenne de la France, et elle a un petit peu toutes les compétences nécessaire, ça oui. C'est pour l'aspect rationnel.
Oui, c'est vrai que personne ne met en doute ses compétences, et vous le disiez, et à entendre le portrait que vous dressez de Sylvie Goulard, elle semble effectivement posséder le profil idéal pour siéger à la Commission européenne. Seulement voilà, la deuxième question d'Ismaïla est pertinente, puisque vous allez l'entendre, Pierre Benazet. Ismaïla.
Oui, cette affaire ne risque-t-elle pas de lui coûter le poste?
Le poste de commissaire européenne, Pierre Benazet, d'autant que l'enquête n'est pas terminée. Comment va réagir le Parlement européen au moment de l'audition de Sylvie Goulard?
Alors, il y a deux aspects dans cette question-là. Je pense que du côté de l'Élysée, il y a probablement un risque assumé. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle le président de la République l'a désigné très tard, hein, 2 jours après l'échéance qui était fixée au départ, peut-être pour éviter les contestations en interne. Il y a sûrement un risque assumé de la part de l'Élysée. On sait que ça avait été compliqué entre le gouvernement et le Modem au moment où elle a démissionné du ministère des Armées en 2017, très peu de temps après sa nomination, c'était pour se blanchir, mais ça a aussi entraîné la démission de François Bayrou et de Marielle de Sarnez. Alors effectivement, l'affaire n'est pas terminée côté français. Elle n'a d'ailleurs pas été auditionnée, étonnamment, pour l'instant, par les enquêteurs français. On a auditionné deux autres députés européens, Corinne Lepage et Jean-Luc Benamias, et surtout d'anciens salariés, d'anciens assistants parlementaires du MoDem, dont Stéphane Théroux, un des anciens collaborateurs de Sylvie Goulard, qui a été ensuite directeur de cabinet de François Bayrou à Pau. Mais ça, c'est pour le volet français, qui est toujours en cours et qui est très long. En revanche, du côté européen, on a d'abord dit que sur les six parlementaires visés, Sylvie Goulard n'était pas forcément la plus impliquée. Et puis, désormais, le Parlement européen a estimé qu'il fallait la blanchir. Le cas au Parlement européen est clos depuis la fin de la semaine dernière. Il y a eu des irrégularités, dit-on ici, irrégularités administratives mineures, notées, non systématiques, non intentionnelles, c'est ce qu'on dit. Et le remboursement lié à cette affaire a été effectué. Donc du côté du Parlement européen, a priori, ça devrait être plutôt réglé. Il reste un autre problème, celui du cercle de réflexion, le think tank Berggruen, aux États-Unis, pour lequel elle est intervenue, pour lequel elle a été payée pendant qu'elle était députée européenne. Et ça, c'est peut-être ça qui peut poser le plus de problèmes, un problème en quelque sorte éthique. Rien ne l'interdit dans les règles de fonctionnement du Parlement européen. Mais en revanche, c'est ça qui pourrait peut-être le plus coincer vis-à-vis des eurodéputés. Il y aura une audition. D'abord, elle va être auditionnée par la future chef de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cette semaine. Et ensuite, elle devra être auditionnée, une fois qu'elle aura été confirmée, auditionnée par le Parlement européen. Et c'est là que tout va se jouer, a priori. Il est probable que Ursula von der Leyen l'accepte. Ce sera le Parlement européen qui aura le dernier mot.
Audition prévue pour quand, Pierre?
Cette audition est prévue dans la semaine. Pour l'instant, c'est très discret. D'accord. Il est possible que ce soit demain, mais ça reste relativement confidentiel. On a eu aucune confirmation depuis 36 heures qu'on demande.
On suivra ça avec vous, Pierre Benazet, correspondant de RFI à Bruxelles. Merci beaucoup et bonne journée à Ismaïla qui nous appelait de Ouagadougou. Au 33 9 693 693 70, Jivet nous a contacté de Brazzaville. Bonjour Jivet.
Bonjour Ali, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, bon réveil à l'écoute de RFI. Quelles sont vos questions?
Au fait, moi, j'appelle à propos du crâne d'Australopithèque, vieux de 3,8 millions d'années, qui a été découvert en 2016, en région, plus précisément la région d'Afar, et les résultats viennent à peine d'être publiés. Mmh. Et par rapport à ces résultats, j'ai bel et bien une question. Pour moi, je me demande bien en quoi cette trouvaille pourrait-elle remettre en question les différentes étapes de l'évolution de l'espèce humaine.
Ouais, Simon Rosé, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service sciences de RFI, vous avez effectivement consacré la semaine dernière un papier à cette découverte qui permet de mieux comprendre l'histoire de nos ancêtres. On nous dit, et vous avez dit également, Simon Rosé, que cette découverte, certes extraordinaire, rebattait en quelque sorte quelques cartes dans l'histoire de l'humanité.
Oui, c'est un peu compliqué, il faut reprendre un peu la chronologie. Donc ce crâne d'Australopithèque, déjà, qui est dans un état de conservation complètement incroyable, qui a permis aux scientifiques qui travaillent dessus de trouver plein d'indices, de données là-dessus, il vient d'une espèce d'Australopithèque qu'on appelle Anamensis. Anamensis, on pensait qu'il vivait il y a moins 4,2 millions d'années, moins 3,9 millions d'années, et comme JV l'a dit, celui-ci, d'après la datation, à 3,8 millions d'années. Ça veut dire qu'il... Anamensis aurait vécu au moins 100 000 ans de plus que ce qu'on pensait. Ça a l'air anecdotique sur des échelles de temps comme ça. En fait, c'est pas si anodin que ça, puisque en même temps, il y aurait une autre espèce d'Australopithèque qu'on appelle Afarensis, là pour le coup de cette région de l'Afar. Lucie est un Afarensis.
L'Afar, c'est en Éthiopie.
C'est hein. En Éthiopie, voilà. Oui. Et en fait, on pensait que les deux avaient pris le relais. Anamensis était éteint et Afarensis avait pris la suite. Et là, avec ce nouveau spécimen, eh bien, on s'aperçoit que les deux se sont un peu superposés. Il y a eu au moins...
deux espèces ont cohabité.
Voilà, on pensait que l'une avait pris la suite de l'autre. Il s'avère que ce serait pas le cas. Il y a au moins 100 000 ans durant lesquels elles auraient cohabité. On le remarque un peu d'ailleurs dans les traits d'Anamensis, le crâne est de tellement bonne qualité qu'on a pu reconstituer en 3D un peu son visage et on voit qu'il partage des traits justement en commun avec Afarensis, avec Lucie, mais également avec des espèces un peu antérieures, un peu plus primitives. Comment est-ce que ça s'est articulé? Eh bien, c'est la grande question et les recherches vont devoir se poursuivre justement pour savoir comment un peu tout ça s'imbrique dans l'arbre de l'humanité, de l'histoire de l'humanité.
Ouais. J'y vais, une dernière question.
Mais oui, par rapport à la reconnaissance des découvertes faites dans cette région de l'Afrique de l'Est, est-ce qu'on pourrait dire que l'Afrique de l'Est est bel et bien le berceau de l'humanité?
Ah, vous parliez de Lucie à l'instant, Simon Rosé. Elle a été découverte effectivement au nord-est de l'Éthiopie. Ce crâne a également été découvert dans cette partie du globe. Comment l'expliquer?
Bah, les deux ont été découverts à 50-55 kilomètres d'écart. Après, oui, c'est clair, tous les plus vieux fossiles d'hominidés qu'on a d'ancêtres humains sont africains, et particulièrement dans cette région éthiopienne, dans tout le côté du rift. Alors en fait, il y a plusieurs hypothèses qui sont faites par les paléo-anthropologues à imaginer, des temps immémoriaux, une grande forêt,
oui,
où vivent de grands singes qui donc vivent dans les arbres. L'activité tectonique géologique fait qu'il y a cette barrière du rift qui apparaît, qui bloque les vents. Donc du côté, on va avoir une forêt, et de l'autre côté, on va avoir de la savane. Et tous ces grands singes qui étaient coincés, mécaniquement, pour survivre, ont dû commencer à apprendre à se redresser, à maîtriser la bipédie. C'est un peu la théorie un peu en vogue pour expliquer pourquoi ces grands singes qui étaient nos ancêtres ont commencé à se mettre debout et à développer ces traits-là, et ont évolué jusqu'à nous. Ça reste à confirmer, bien sûr, mais il y a pas mal d'indices qui vont dans ce sens-là, et c'est ça, ce qui explique pourquoi, dans cette région de la Corne de l'Afrique, on trouve la plupart de ces vieux fossiles les plus anciens, qui remontent à plusieurs millions d'années.
Et tous sont conservés dans le même état que le crâne retrouvé il y a 2 ans.
Non, pas forcément. On peut retrouver
des phalanges,
des bouts d'os.
La conservation est exceptionnelle.
Ah, là, c'est assez incroyable de retrouver un crâne dans cet état où il y a le maxillaire, il y a les os occipitaux, on voit bien les orbites des yeux, la fosse nasale. On a pu reconstruire en 3D le visage de cet Australopithèque anamensis. On a mis une photo, l'équipe de chercheurs a publié une photo qu'on a publiée sur le site de RFI.
Allez-y.
En marge de l'article. Vous pouvez voir un peu RFI. .fr dans l'onglet science, et vous pouvez aller voir un peu à quoi ressemblait justement cet ancêtre. Est-ce que c'était notre ancêtre en plus? Ça, on ne sait pas, puisqu'il y avait plein d'espèces d'Australopithèque à l'époque. Au début, on pensait que Anamensis, Afarensis, in fine, avait évolué vers le genre Homo, dont nous, Homo sapiens, faisons aujourd'hui partie. Une hypothèse qui est un peu rebattue en brèche aujourd'hui. On pense que ce serait peut-être une autre branche de l'arbre australopithèque qui aurait donné à la fin de l'histoire, qui serait arrivée jusqu'à nous. C'est compliqué. Il y a encore pas mal de choses à voir. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est quelque chose de très. Il n'y a pas de case, en fait. C'est qu'il y a un spectre du vivant comme ça, avec des espèces qui se chevauchent. Il n'y a pas vraiment de rupture nette entre espèces. Ça s'est un peu mélangé. Tout ce qui complexifie la chose aujourd'hui pour les anthropologues.
Et la reconstitution du visage que j'ai sous les yeux sur le site RFI.fr est absolument incroyable. Merci beaucoup, Simon Rosé, d'être venu nous expliquer les coulisses de cette découverte et tous les enjeux qui en découlent. J'y vais. A-t-on répondu à vos questions? Il me semble que Simon a été complet, mais peut-être vous avez peut-être une question subsidiaire.
C'est bon, il a tellement bien répondu. Et merci encore à RFI.
Merci à vous de votre fidélité. À bientôt, Simon Rosé. J'y vais. Bonne journée à Brazzaville. Vous avez peut-être pris l'émission en cours. Vous souhaitez réécouter les réponses de nos experts. Rendez-vous dans quelques minutes sur notre application RFI Pure Radio ou sur notre site RFI.fr dans la rubrique émission. Et vous pourrez à tout moment réécouter les explications. Vous avez également une session de rattrapage sur la page Facebook de l'émission. Fouque Folleur s'en occupe tous les matins. Et vous pouvez réécouter quelques-unes des explications des journalistes de RFI. On avait prévu d'autres questions ce matin. On a été un peu gourmand dans la préparation de l'émission, mais je m'adresse directement aux auditeurs qui étaient en attente, notamment à Boubacar. On vous rappelle demain, c'est promis, vous pourrez poser vos questions. Restez avec nous, on va retrouver dans un instant l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on sera de retour tout de suite après, dans 10 minutes, pour notre débat du jour, l'avenir de la MONUSCO. Quel avenir pour les 16 000 casques bleus déployés en République démocratique du Congo? Ils sont sur place depuis maintenant 20 ans, mais bien souvent la population les accuse de rester inactifs, d'être de simples observateurs face aux exactions des groupes armés. Des ajustements sont indispensables. Le patron de l'ONU l'a encore dit ce matin sur RFI. On en parle ensemble dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.